Au cinéma ce soir, je t'emmène.
Oh, ça, je peux pas.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc.
On pourrait foutre le feu à la forêt pour les objets à sortir.
C'est pour le cinéma ou la télé?
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio d'ici. Vous allez entendre une émission spéciale dans le cadre du Festival du Premier Film, qui est la 37e édition du Festival International du Premier Film. On reçoit aujourd'hui sur le plateau de Radio d'ici Sandrine Brouwer, productrice. Bonjour.
Bonjour.
On a Mathieu Buisson, qui a co-réalisé avec Julie Gaillet un film qui s'appelle The Filmmaker.
Bonjour.
On a également Cathy Guéry.
Non, Géry.
Oh, pardon. Cathy Géry.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis, on a Geneviève Housset qui vient participer à l'interview de ces personnes qu'on remercie d'être présentes sur le plateau de Radio d'ici.
Bonjour.
Alors, on va démarrer une discussion autour de ce film qui était projeté au Festival du Premier Film, qui donnait lieu ensuite à une table ronde en présence du collectif 50-50, dont Sandrine Brouwer pourra nous parler, mais aussi Cathy et Mathieu. On commence par parler un peu du film et de son contenu, pour expliquer un peu à nos auditeurs, auditrices, le démarrage de cette discussion, d'où elle part.
Bien, et je vais poser quelques questions à Mathieu concernant la genèse du film, puisqu'effectivement, pour en faire un bref résumé, c'est un film qui est constitué d'un certain nombre d'entretiens qui ont été réalisés avec 25 ou 30 cinéastes du monde entier, cinéastes femmes, qui s'expriment sur leur métier et sur leur position de femme dans ce métier. Le film est introduit par une sorte de coup d'éclat qui a eu lieu à Cannes l'année dernière et qui a été très médiatisé parce que le Festival international de Cannes est en soi déjà très médiatisé. Je pense que c'était une centaine de femmes issues de différents métiers du cinéma, des réalisatrices mais aussi des techniciennes et bien entendu des actrices, se sont rassemblées sur les marches pour dénoncer pour employer un mot très précis et en même temps quelquefois qui gêne les gens, le sexisme et le machisme du cinéma, le sexisme essentiellement, puisqu'effectivement sur un festival comme celui-ci, il y a finalement très peu de films de femmes. Il y a des chiffres assez impressionnants dont on parlera après avec le collectif 50-50, mais déjà d'entrée de jeu, ça nous donne un certain ton. Et j'aimerais savoir comment le film est arrivé là. Est-ce qu'en fait il est arrivé après cette manifestation et qu'effectivement vous avez utilisé des images qui ont été tournées à ce moment-là à Cannes, ou si en fait il était déjà en gestation et s'il avait été mûri, comment ça s'est passé?
Alors je vais essayer de faire court en étant un peu long. Ce film, c'est le troisième trilogie. On n'avait pas pensé ça comme une trilogie, mais il se trouve qu'il y en a trois maintenant. Le premier, qui était consacré aux femmes réalisatrices françaises, était une commande de Myriam Hassen de Ciné+. Et nous, Julie et moi, on n'est pas journalistes, on est comédiens, Julie un peu productrice, moi un peu réalisateur de fiction, mais on n'est pas journaliste. On a décidé de faire ça. Donc il y a 7 ou 8 ans, donc bien avant les mouvements MeToo, l'affaire Weinstein, toutes les horreurs qu'on a pu entendre, ou les mouvements qui se sont levés. Ce film a plu, il questionnait la difficulté d'être une femme pour faire ce métier, en même temps que, est-ce qu'il y avait une différence de regard, est-ce qu'elles avaient une façon d'écrire différente, de filmer différemment, voilà, et du coup, pour s'amuser, on a un peu pris le contre-pied, on a fait un deuxième film qui était consacré aux hommes, savoir s'il y avait un cinéma d'hommes, puisqu'on avait interrogé le cinéma de femmes. Donc, pareil, qui était constitué d'une vingtaine d'interviews de réalisateurs français. Et on s'est aperçu, sortant de tout ça, que même si on était encore loin du compte, on était relativement privilégié en France, puisqu'on est, selon les stats, entre 23, 25, 27%, les années miraculeuses, de réalisatrices françaises. et que dans le reste du monde, c'est bien plus bas, quoi. C'est vachement plus bas. Ça va de ça aussi entre 10 et 0%.
Mais c'est 27% de femmes réalisatrices, mais c'est pas 27% de films de femmes sélectionnés dans les festivals, c'est très clair.
Ah non, ça n'a rien à voir.
Mais
ça,
oui, non, mais c'est pour rebondir sur...
De femmes qui ont la chance d'être produites et d'avoir un film diffusé, quoi, hors festival. Et les festivals, c'est encore autre chose, parce qu'ils n'ont pas du tout tous la même politique. Donc là, amusez-vous avec les chiffres. Mais, en tout cas, ils sont bas, les chiffres, en gros. Donc voilà, on est parti de ça, et c'est vrai que comme on fait ça avec des moyens assez modestes, on a pris notre temps pour le faire, on a été rattrapé, c'est pas le mot, mais enfin, et arrivé par là-dessus, l'affaire Weinstein, MeToo, tout ça, et du coup on les a incorporés au final au film, mais tout en restant sur, en essayant de rester sur notre ligne de départ, c'est-à-dire qu'on n'allait pas parler de violence sexuelle, c'était pas le propos du film ou de choses, on sait que ça existe. Il y a des choses horribles, mais c'est. On essaie de parler d'un sujet plus de fond, en fait. Moi, j'ai l'impression, pour faire très court et résumer, que si ces violences sexuelles, notamment ces abus de pouvoir horribles, arrivent, c'est que d'emblée, déjà, il y a une base qui fait qu'on considère que les femmes sont inférieures aux hommes, dans tous les milieux, et notamment dans le milieu du cinéma. Donc, nous, on interrogeait déjà cette différence entre hommes et femmes qualitative. De pouvoir, de moyens, et ça a été notre propos. Et donc ça finit effectivement par les 82 femmes à Cannes qui symbolisent les seules 82 réalisatrices qui ont eu la chance d'être sélectionnées à Cannes à côté de 1600 et quelques garçons depuis la naissance du festival.
Voilà. C'est curieux, j'avais souvenir que c'était le démarrage du film, mais en fait...
C'est la fin, mais parce qu'on l'a passé plusieurs fois en boucle.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous interrogez des femmes de pays très très différents, hein, évidemment de France, d'Allemagne, de Suède, mais aussi des femmes indiennes, des réalisatrices indiennes, des réalisatrices africaines. Et on retrouve quand même une assez grande unanimité, quel que soit le pays dont elles sont originaires, pour dire qu'aussi bien dans la réticence qu'elles avaient dans la crainte qu'elles avaient à oser envisager d'être réalisatrices, que la manière dont elles ont été, perçues dans leur famille ou par leur entourage quand elles ont décidé de l'être. Mais ces femmes qu'on voit, elles ont toutes, réussi à devenir réalisatrices. Et oui, c'est frappant de voir que, les mêmes questions se posent, quel que soit le pays. Et comment est-ce que vous avez pu les... Elles ont été enthousiastes à l'idée de répondre à vos questions, ou certaines étaient surprises, ou vous avez eu des difficultés à parler avec elles? Comment ça s'est passé au niveau des rencontres que vous avez faites et des choix que vous avez pu...
On n'a pas eu beaucoup de difficultés. En tout cas, toutes celles qui sont à l'écran ont parlé assez spontanément. C'est compliqué le milieu du cinéma parce que c'est à la fois un milieu où il se passe les horreurs qu'on a pu voir et tout ça, mais c'est quand même un milieu privilégié. Toutes ces femmes qui nous parlent, elles avaient déjà décidé à travers leur film de prendre la parole. Donc nous parler n'était pas aberrant. Comme en plus, nous, on fait plutôt partie du milieu, qu'on n'est pas journaliste, on les met relativement en confiance assez vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas un ennemi à chercher, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais elle est titillée. Donc non, la prise de parole a été relativement facile de la part de chacune, je crois. Après, pourquoi elle, pourquoi pas d'autres? Ça s'est un peu fait au gré des rencontres, au gré des possibilités, des agendas, des voyages, parce que voilà, il faut certaines aller à les chercher. Après, oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'unanimité, enfin d'uniformité terrible, que c'est mal vu pour une femme encore aujourd'hui, dans la plupart du temps, d'être réalisatrice. C'est très dur de passer le cap. Et la seule variation, c'est des degrés, quoi. C'est-à-dire que dans certains pays, c'est carrément des prostituées, et puis dans d'autres, c'est un peu plus nuancé, mais c'est de toute façon plus compliqué que quand on est un garçon. Ouais.
Ah oui, très nettement. Très nettement. Et en fait, ce film, vous l'avez donc... c'est un film de commande, puisqu'effectivement, il fait partie de cette trilogie. C'est donc passé sur une chaîne privée. Mm-hmm. Moi, il m'a semblé intéressant d'imaginer qu'il puisse circuler et être montré... un public d'hommes, À mon avis, ça leur ferait pas de mal, j'allais dire à des professionnels hommes, de voir le film en entier. Je suis pas sûr qu'ils le voient, mais aussi à des jeunes pour effectivement qu'ils puissent peut-être de même déconstruire une certaine image du cinéma et prendre conscience. Voilà.
Non,
prendre conscience de parce que malheureusement, je pense que les choses sont à prendre.
Non, il faut en parler. Bah complètement. Après, voilà, le terme de commande, moi, je suis le premier à le dire, mais il est pas très joli, quoi. C'est une commande qui est devenue une demande, puis une suggestion, puis une invitation, puis voilà. on l'a fait en bonne entente avec la chaîne et c'est eux qui nous ont commandé la suite. Ils ont toujours été à nos côtés, à nous soutenir.
Et ça se voit dans la pertinence de ce que vous y mettez, d'ailleurs.
Enfin, ils ont jamais dit non, ça c'est hors de question, on va le censurer. Enfin, ils ont même dans la durée, on a une durée complètement qui n'existe pas en télé. C'est ni un 52, ni un 60. Enfin, on a fait un peu ce qu'on voulait, quoi. Donc ils sont à nos côtés très libres et c'est vrai que ça nous a un peu, toute proportion gardée, dépassé. C'est-à-dire que sorti du premier, puis le deuxième, puis le troisième, on s'est dit quand même il va falloir commencer à en faire quelque chose. Et là, Julie, à travers sa société, initie, on va avoir une petite tournée, notamment avec des collégiens, des lycéens, des étudiants, pour présenter le film en France, dans différentes villes choisies, à faire l'Est, le Nord, l'Ouest, la Bretagne, je ne sais pas quoi. Voilà. Se balader pour aller à leur rencontre et parler de ça, parce que c'est vrai que on a une idée, mais moi le premier qui suis dans le milieu du cinéma depuis longtemps, que je le dis encore, on est privilégié, et en fait c'est au mieux pareil que dans tous les milieux, parfois pire, et à la fois ça parle vachement aux gens, ça parle vachement aux jeunes aussi, le cinéma. Donc c'est important qu'ils se rendent compte que dans ce milieu-là, il y a au moins les mêmes problèmes, mais comment on peut réussir à tous, ensemble, être un peu plus intelligents pour être moins cons. C'est intéressant, ma phrase.
Mais de fait, comme vous le dites, ça n'est pas du tout propre au milieu du cinéma.
Ah,
mais au moins, le film a le mérite d'exister. Et ces questions qui sont posées dans le monde du cinéma, elles se posent évidemment dans d'autres milieux. Il suffit de regarder les statistiques.
Oui, c'est effrayant.
C'est effrayant. Là, on parle de parité maintenant. D'ailleurs, c'est évoqué dans le film à certains moments, de savoir est-ce qu'effectivement on doit considérer que les festivals doivent penser la parité dans leur sélection. Certaines réalisatrices, en tout cas il y en a une qui dit que c'est pas forcément une bonne idée, mais c'est vrai qu'on impose la parité dans un certain nombre de circonstances, mais il faut voir comment elle est traitée là. Nous on est un peu sur les élections municipales en ce moment, par exemple. La parité dans les listes, elle existe, elle n'existe pas du tout dans le nombre de femmes maires au niveau des 35 000 communes en France. Bon, je veux dire, c'est vrai que le film est intéressant dans d'une manière plus large sur la société d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été réalisé dans les années 70 par une comédienne réalisatrice qui s'appelait Delphine Seyrig et qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Sois belle et tais-toi?
Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu une interview, par contre, de croisée entre Varda et elle qui en parlait du film. Mais je n'ai pas vu le film.
Et c'est un film très étonnant, du début des années 70 et dans le Delphine Seyrig, qui est elle-même comédienne, interview de tout un tas de comédiennes de l'époque. Ça va de Jane Fonda à des comédiennes françaises, je ne me rappelle plus les noms parce que j'oublie les noms, mais des comédiennes qui sont certaines décédées, d'autres qui sont encore en pleine carrière, et qui parlent, elles, de leur position de femme en tant que comédienne et la manière dont elles sont traitées. Et ça fait un drôle d'effet parce que c'est un film qui a quand même 45 ans et on se rend compte que les lignes n'ont pas tellement bougé.
Non, ça bouge très peu, ça bouge très peu. Moi, j'ai fait des écoles comme Julie, mon premier métier, c'est comédien. J'ai fait le conservatoire et il y a en moyenne 20 filles qui se présentent pour être comédienne pour 3 garçons. Donc déjà, il y a une espèce de... À l'inverse, les garçons n'osent pas forcément. Ça a peut-être un peu changé maintenant. Et par contre, à l'inverse, il y a 3 rôles de filles un peu potaches pour 40 rôles de mecs merveilleux qui pourront jouer jusqu'à 70 ans avec plein de variantes possibles. Alors que la fille, si elle a 25 ans, elle n'a pas fait carrière et qu'elle n'est pas un peu mignonne, c'est terminé, quoi. Si elle a le malheur en plus d'être enceinte ou je ne sais pas quoi, alors là, c'est limite une grossièreté. Non, c'est effrayant, mais c'est vrai que c'est dans tous les milieux. Moi, je vois, j'ai des enfants jeunes, ils ont moins de 10 ans. J'ai un garçon et une fille, je vois les deux. Ma fille aime le foot, elle met des coups de boule à tout le monde. Et mon fils aime se mettre du vernis à ongles. Je vis dans un milieu bobo parisien. C'est mal vu, c'est déjà mal vu, quoi. c'est effrayant. Si elle a envie de mettre des coups de boule, enfin, il ne faut pas mettre des coups de boule, c'est mal, mais je veux dire que si elle a envie de préférer le foot et lui de se mettre du vernis à ongles, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Enfin, c'est fou que déjà, on leur fout une chape de. Le regard des autres, des parents d'abord, même pas des élèves, des parents. C'est effrayant, quoi.
On va rebondir justement en élargissant la discussion avec le collectif 50-50, puisqu'effectivement, on est déjà là sur une problématique qui n'est pas seulement celle des réalisatrices, mais qui est aussi celle des comédiennes. Je pense que ça serait vraiment important maintenant que vous puissiez nous expliquer un petit peu comment ce collectif est né, et en tout cas ce qu'il fait maintenant. Peut-être que c'est un peu long d'expliquer la genèse de l'histoire, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il fait maintenant ?
Mais je pense que le film que Mathieu a réalisé positionne clairement le combat, c'est-à-dire que, en fait, le film met absolument en chair et en os un constat qui est persistant. Et c'est là que se loge le combat. C'est pourquoi, dans les écoles de cinéma, tu parles des comédiennes et des comédiens, et donc il y a un ratio qui est effectivement certainement révélateur, peut-être, d'attentes, de stéréotypes, enfin de comment les gens arrivent dans cette école et comment les rôles sont écrits et comment ils évoluent. Mais si on sort même de juste uniquement ce métier et qu'on élargit à tous les métiers de cinéma, c'est super intéressant de voir que dans les écoles de cinéma, notamment les trois écoles nationales, enfin les trois écoles les plus importantes, il y a plus de filles que de garçons. Alors on est, dans le meilleur des cas, on est à 50-50, mais en général, enfin on est plutôt même à pas loin de 55% de filles et 45% de garçons. Donc on est quand même dans une parité de présence. Après, vous savez, l'évolution de carrière. En fait, c'est très délicat comme étude, parce qu'il faut respecter la liberté de création, il faut respecter la liberté de carrière, les évolutions des uns et des autres, et en même temps essayer de déceler ce qui fait système. C'est pour ça que le film est hyper intéressant, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui persiste, qui existe en France, qui est persistant au fil des années, et qui existe finalement assez partout dans le monde. C'est-à-dire que culturellement, on a fabriqué une place de prééminence, on a fabriqué une place... Enfin, on avait fabriqué un effacement des femmes devant et derrière la caméra. Et du coup, avec 50-50, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut objectiver cette observation ? Quels chiffres on a ? Comment on peut aller chercher des chiffres qui nous décrivent le mieux possible la situation ? Et qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? Comment on peut agir ? Comment on peut se saisir de cette situation ? Donc, tu parlais des comédiennes, Mathieu, mais il y a aussi, donc, dans ces écoles de cinéma... Pour prendre le rôle, la casquette la plus visible, hein, parce que c'est vrai sur d'autres métiers, mais prenons la casquette la plus visible des réalisateurs et des réalisatrices, quand on a moitié-moitié de garçons et de filles dans les écoles, et qu'in fine, en France, c'est pas qu'on a 25% de filles, hein, de réalisatrices, c'est que chaque année, la France, qui est quand même un pays de cocagne du cinéma, enfin de cocagne, c'est beaucoup dire, mais c'est un des pays...
C'est moins pire.
C'est un des pays dans lequel on a quand même réussi à construire un système qui est souvent mis en péril, et en ce moment, on vit un moment assez, un peu difficile et assez inquiétant. Mais on est quand même dans un pays dans lequel le marché n'est pas le seul conducteur des films qui peuvent se faire. Donc on est dans un cinéma dans lequel on est supposé fabriquer un cinéma de grande variété, qui représente les différentes composantes de la société française, qui représente une variété d'enjeux, de styles, de genres, d'envies, de désirs. Enfin voilà, on est supposé être dans un cinéma assez vivant et pas un cinéma uniquement orienté sur le marché. Ben, dans cette cinématographie-là, c'est vrai que par rapport à beaucoup de pays, on a un système assez favorable finalement à la présence des femmes. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir 25% des films produits chaque année qui sont réalisés par des femmes. 25%, alors qu'ils sont 50-50 à peu près dans les écoles. Donc, de façon systémique, on constate que les femmes ont disparu. C'est-à-dire que si elles sont 50% dans les écoles et qu'in fine, elles ne sont que 25% à réaliser des films, on voit bien qu'il y a donc une disparition qui s'est organisée. Donc, la question de cette disparition, quand on l'étudie, on voit qu'il y a plusieurs facteurs. D'une part, il y a certainement une usure. C'est-à-dire qu'on observe les budgets des films réalisés chaque année. On prend ces études et on les genre, c'est-à-dire qu'on regarde les investissements qui sont faits sur les films réalisés par des femmes, les investissements qui sont sur les films réalisés par des hommes, et on voit que, de manière persistante, il y a une grosse différence de budget moyen entre les uns et les autres. Donc on voit qu'il y a peut-être des films qui sont faits dans une plus grande fragilité, une plus grande précarité. On regarde un autre chiffre qui est par exemple ce qu'on a appelé la densité des carrières. Combien de films un technicien ou une technicienne vont faire en 10 ans? Alors évidemment, quand on est réalisateur, il faut 2, 3, 4 ans pour faire un film. Quand on est ingénieur du son ou chef opérateur, on peut faire 2, 3, 4 films par an. Donc on ne peut pas comparer les métiers entre eux, mais à l'intérieur d'un même métier, selon qu'on est garçon, enfin homme ou femme, à l'intérieur d'un même métier, on a réalisé qu'il y avait une disparité de 30%. C'est-à-dire que quand un homme fait, on va dire, 10 films, s'il est chef machinot, 10 films en 5 ans, une femme va réaliser moins 30%, c'est-à-dire 7 films. Et en général, donc, on sait que ce sont des films qui sont moins bien financés. Donc ce sont aussi des films dont la durée de tournage est moindre, donc on est payé moins longtemps. Donc en fait, si vous voulez, ce qu'on constate, c'est que de manière purement... la logique de la vie fait qu'on est moins bien payé, on fait moins de films. On a aussi, du coup, une densité de carrière moindre, ce qui veut dire qu'on est peut-être moins convaincant quand on se présente pour un job. Moi, je suis productrice, je sais exactement combien me coûte chaque journée de tournage et je vais forcément faire très attention quand je lance un film, quand je lance un tournage, quand je constitue une équipe. Je vais évidemment regarder un petit peu ce qu'on appelle le track, le backtrack de mes techniciens. Je vais regarder quels films ils ont fait, quels sont leurs parcours professionnels. Et par nature, donc, je vais être un peu conservatrice. Je vais avoir tendance, si je vais tourner un film en haute montagne, je vais par nature prendre un chef-op qui a déjà tourné en haute montagne. Donc, on reproduit quelque chose qui est de l'ordre du même. Et dans cette reproduction de film en film, d'année en année, d'année de cinéma en année de cinéma, on constate, donc, au fil des années, qu'on construit ça. On construit des films qui sont moins bien financés quand ils sont portés par des femmes et, finalement, des parcours de techniciennes et de réalisatrices qui sont moins denses. Et moins denses veut dire qu'on est moins convaincant, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, d'où les questions de qu'est-ce qu'on fait avec 50-50. On a essayé de se positionner sur cette question-là qui est comment, à la marge, on va pas créer un ghetto, on va pas créer des quotas en disant il faut que l'avance sur recette, qui est la subvention principale au cinéma, soit à moitié distribuée pour des films réalisés par des femmes ou réalisés par des hommes. Ce qu'on essaye d'adresser, c'est de casser un entre-soi, de s'assurer qu'on va, d'une part, densifier les carrières des techniciennes pour qu'elles puissent aussi devenir réalisatrices si elles veulent. Et ça passe par cette bonification de soutien que le CNC a accepté de créer. En fait, c'est venu dans des discussions avec le CNC. Et cette bonification de soutien, c'est un bonus. Donc, c'est pas une aide qui va créer un ghetto. C'est pas une aide qui va suffire à faire un film. Mais quand on mobilise du soutien, les producteurs ont une capacité de mobiliser de l'argent qui est mis de côté. C'est un peu comme une caisse d'épargne. À chaque fois qu'on fait un film, on a de l'argent qui est au CNC, qui est ce qu'on appelle un fonds de soutien. Ce fonds de soutien, quand on le mobilise, on a un bonus de 15% quand l'équipe des techniciens, des chefs de poste, est paritaire. Ça veut dire qu'on veut favoriser le fait qu'une assistante d'éco puisse devenir chef d'éco et ne reste pas cloîtrée dans son rôle d'être assistante. Ça veut dire qu'on essaie de pousser les carrières à se densifier et à monter en hiérarchie. Et quand les chefs de poste sont paritaires, il y a cette bonification. Et pour l'instant, cette mesure a été créée et mise en œuvre depuis le 1er janvier 2019. Donc c'est tout nouveau, hein, mais d'après les premiers chiffres, on voit une certaine efficacité à ça, c'est-à-dire qu'on voit les équipes être un peu plus paritaires. Et on voit aussi peut-être des regards narquois ou des commentaires narquois quand la mesure a été lancée, par des gens qui étaient peut-être un peu réfractaires ou qui pensaient qu'on allait, tout d'un coup couper des têtes. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus sympathique, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus agréable de travailler avec des équipes paritaires et qu'on n'avait coupé aucune tête et que c'était juste une façon d'être un peu plus égalitaire.
Ça, c'est bien. Ça a été difficile à obtenir.
Je crois que la première leçon qu'on peut tirer de tout ça, parce que vous avez parlé de la photo des 82 femmes, c'était un moment médiatique qu'on a créé. C'était notre première, quand le collectif s'est créé, c'était vraiment le premier événement qu'on a créé, cette montée de marche. Et le chiffre que vous avez cité des 82 femmes sur les marches, c'était effectivement assez saisissant. Et quand on a des chiffres saisissants, quand on a des chiffres qui sont indéniables et qui décrivent un système, en fait, on se rend compte que beaucoup d'interlocuteurs veulent s'en saisir. Parfois, on ne sait pas comment. On a parfois des gens qui sont un peu désemparés, qui disent « oui, mais on n'y peut rien ». Par exemple, les festivals nous disent « oui, mais nous, on n'y peut rien si on est la fin d'un parcours. On ne crée pas, on est obligé de puiser dans un réservoir de films qui existent dans le monde. » Ce qui est vrai. En revanche, ce qui peut être vraiment intéressant pour les festivals, c'est de se demander si entre le nombre de films qu'ils reçoivent et le nombre de films qu'ils sélectionnent, est-ce qu'ils ont une transformation, un taux de transformation qui est neutre ou au contraire qui favorise. C'est-à-dire que si on reçoit 20% de films réalisés par des femmes et qu'on en sélectionne 20%, c'est ce qu'on appelle un taux neutre. S'ils en ont sélectionné un peu plus, Ça veut dire qu'ils ont essayé de faire un effort pour mettre en avant peut-être un peu plus de films de femmes. Donc ça, c'est un chiffre intéressant à analyser.
Je voudrais donner la parole à Cathy Géry, qui nous a fait le plaisir d'être présente aussi. Donc vous êtes directrice du cinéma Les Navires à Aubenas. Et oui. Vous êtes aussi programmatrice des rencontres des cinémas d'Europe. Vous participez aussi au collectif 50-50. De quelle manière, enfin, quel est votre moyen d'action?
En tout cas, j'adhère complètement au collectif 50-50. Disons que ce qui est tout à fait normal, enfin, en tant que femme et programmatrice, je suis forcément sensible à cette question, et je pense que moi, de par mon éducation aussi, j'ai pas été forcément confrontée à des difficultés, et je me rends compte à quel point c'est incroyable ce qui peut y avoir à tous les niveaux et dans le milieu du cinéma. Donc du coup, je me dis qu'il faut absolument, à travers des films comme celui de Mathieu, à travers d'autres qui existent, pouvoir les montrer aussi pour dénoncer, pour questionner, comme c'est notre rôle quand on est programmateur et qu'on veut montrer un petit peu ce qui se passe dans le monde à tous les niveaux, et à ce niveau aussi, à travers les films, c'est important de pouvoir les montrer au public et faire en sorte qu'ils se posent les bonnes questions et que ça change, surtout parce que là, dans le film, à la fois dans le film de Mathieu, enfin, il y a une interview de, pas tellement de Jenna Davis d'ailleurs, qui s'exprime peu, alors qu'elle a mené des études, enfin, elle a beaucoup œuvré aux États-Unis.
Elle
est hyper mobilisée.
Une association qui récolte les chiffres.
Ouais. Exactement, donc des données incroyables. Et ça, on le découvre dans un autre film qui va sortir, qui s'appelle Tout peut changer, si les femmes comptaient à Hollywood. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Pourquoi je voulais dire ça?
L'exemplarité, parce que en fait, ouais, ce qu'elle raconte dans son film, c'est, enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais elle a été saisie. Pourquoi elle a créé cette fondation? Parce qu'un jour, elle a eu des enfants.
Ouais.
Et assise dans son canapé avec ses enfants, elle a vu les images qu'on proposait et elle s'est dit qu'elle ne voulait pas que l'imaginaire de sa fille soit formaté par ça.
Oui, c'est ça. Et puis le fait de rendre hommage aussi, parce qu'il y a beaucoup de... On a parlé tout à l'heure d'Alice Guy. En fait, il y a plein de femmes qui sont pionnières à plein de niveaux et dans le milieu du cinéma également. Et on ne sait pas pourquoi, subitement, elles ont été écartées de tout ça. Donc, c'est vrai que... Il faut absolument que les choses changent. Et oui, alors ça y est, j'ai retrouvé aussi par rapport à Thelma et Louise et par rapport à certains films comme ça, cultes, qui ont marqué à un moment une génération. Finalement, il y a eu un buzz à un moment, mais derrière, pas grand-chose ont changé. Donc il faut que là, avec ce collectif, avec nous engagements en tant que programmateurs de festivals, on puisse vraiment être en support aussi, en soutien, pour que ça change vraiment.
Si, pour compléter exactement ce que dit. En fait, je pense que ce qu'il y a de saisissant, c'est qu'on est tous responsables dans les maillons dans lesquels on intervient, que ce soit la salle de cinéma, que ce soit la radio, que ce soit à l'écriture ou la réalisation. Et effectivement, c'est ce que dit Gina Davis. Elle s'est rendue compte, elle s'est posée la question le jour où elle était dans son canapé avec sa fille, et qu'elle s'est dit, vous savez, c'est le fameux syndrome de la schtroumpfette. Qu'est-ce qu'on propose à ma fille? On lui propose d'être une jolie blondinette et de balayer sa mèche. Et que tous les autres garçons autour d'elle, ils ont le droit d'être le grincheux, le matheux, enfin, ils ont tous une caractéristique, mais pas la fille. Et ce qu'il y a de fou, c'est quand, à partir du moment où on commence à mesurer les choses, à les regarder, et c'est ce qu'a fait notamment Véronique Lebris avec le prix Alice Guy, elle a créé un prix qui s'appelle le prix Alice Guy, qui met à l'honneur chaque année une femme réalisatrice. Et en fait, je crois que cette année, elle a décompté qu'il y avait 78 films réalisés par des femmes, alors que l'année dernière, il y en avait 86, l'année d'avant, 87. Là, je parle que de films français. Mmh. Et au niveau européen, les études aussi montrent en fait une espèce de recul. Donc, ce qui est important, c'est qu'on est chacun responsable dans les échelons où on est, et c'est de parler de chiffres très précis. Parce que le sentiment de « oh, mais ça va mieux », en fait, on se rend compte avec le film de Mathieu qu'il y a un système qui existe et que ne pas le regarder permet de ne pas régler le problème. Mmh.
Alors, je suis navrée, mais on va devoir s'arrêter là. On vous remercie d'avoir été au micro de Radio d'ici. Ce qui est important, c'est de retenir le nom de ce film, quand même, Filmmakers, que peut-être vous pouvez trouver quelque part, voilà, chercher le net vous offrira peut-être des portes, et qui va tourner dans des collèges et des lycées de France, et que c'est déjà un premier pas. Je pense qu'aussi ça vient remuer des choses et secouer, parce que on parle d'une profession, on parle d'un art qui est présent et qui diffuse, mais en fait, en tirant la ficelle, on parle de toute une société, et donc on changera pas les choses avec une baguette magique, et c'est avec un travail de fond, donc comme vous pouvez le faire au sein du collectif 50-50. Donc bravo, bonne continuation sur tout ça. Geneviève, tu as envie d'ajouter quelque chose ou une dernière question ?
Je dois simplement dire que j'ai travaillé dans cette profession pendant plus de 30 ans et qu'effectivement on était très minoritaire, y compris moi. J'étais donc, comme Cathy, responsable de salle de cinéma, et on était peu nombreuses, on était un peu considérées comme des grandes gueules en général, ce qui était assez agaçant, même si on l'était peut-être, on avait peut-être besoin de l'être pour exister et pour arriver à convaincre. Mais il faut que ça change, et c'est vrai que c'est du boulot. Et félicitations.
On vous invite à continuer à aller dans les salles de cinéma. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.